Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 2 juillet 2018, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Attaque terroriste contre la force Barkhane hier au Mali.
Ouverture hier à Nouakchott, en Mauritanie, du sommet de l'Union africaine.
En République démocratique du Congo, les pro-Kabila s'organisent pour les prochaines échéances électorales.
Au Mexique, le candidat de la gauche, Andrés Manuel López Obrador, élu à la présidence, une première dans l'histoire moderne du pays.
Ici aux États-Unis, le droit à l'avortement à l'ordre du jour. Le président Donald Trump devant choisir un second juge conservateur pour la Cour suprême.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde. Pour l'instant, l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde.
Au Mali, des soldats français de l'opération Barkhane ont été visés dimanche par un kamikaze dans une attaque au véhicule piégé à Gao. Le ministère de la Défense a parlé de 4 civils tués et de 20 autres blessés. Et selon une source hospitalière, le bilan est de 4 morts et 38 blessés. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Des militaires français de l'opération Barkhane sont tombés le dimanche 1er juillet dans une embuscade tendue par des terroristes à la sortie qui mène vers la localité de Bourem. Au moins un soldat français a été tué. Il y a également des blessés civils qui ont été acheminés vers l'hôpital régional. Une patrouille de Barkhane a été prise en partie. C'est un kamikaze au quartier 4 de Gao. Très vigilante, un blindé lui a barré la voie. Et le véhicule kamikaze s'explosa. Le périmètre de l'acte a été complètement bouclé par les militaires français. Certains blessés ont été acheminés à l'hôpital régional. Et l'une de nos sources dit avoir vu le corps d'un jeune homme qui se trouvait au niveau de cet hôpital. Ce sont les gendarmes qui ont transporté son corps. Le bilan de cette attaque est de 4 morts et 21 blessés, dont un gendarme. D'autres victimes étaient du côté de Barkhane. À la veille de cette attaque de Gao, dans la région de Mopti, cercle de Koro, à Djungani, 4 militaires maliens ont perdu la vie dans une explosion de mine et 2 ont été grièvement blessés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Cette attaque de Gao et celle de vendredi contre le QG du G5 Sahel au Mali ont été évoquées au sommet de 2 jours de l'Union africaine qui s'est ouvert hier à Nouakchott en Mauritanie. Pour le président du pays hôte, Mohamed Ould Abdelaziz, il faut prendre une approche intégrée, incluant des solutions économiques et sociales pour faire face à la menace extrémiste. De telles attaques, estime-t-il par ailleurs, démontrent aussi qu'il y a encore énormément de failles dans la sécurité qui doivent être corrigées. En fin de sommet, le président français Emmanuel Macron parlera avec ses homologues du G5 Sahel.
A signalé aussi qu'au Niger, selon une ONG et une source sécuritaire hier, au moins 2 soldats nigériens ont été tués dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram contre une position militaire dans le sud-est proche du Nigeria. Toutefois, un porte-parole du ministère nigérien de la Défense ne confirme pas pour le moment cette attaque.
La garde rapprochée du président congolais Joseph Kabila a lancé hier avec ses alliés venus de l'opposition sa plateforme électorale supposée lui permettre de remporter toutes les élections prévue le 23 décembre, sans rien dire sur les intentions du chef de l'État. Nathalie Barge.
Joseph Kabila est l'autorité morale du Front commun du Congo qui veut aller à la conquête démocratique du pouvoir en soutenant une seule candidature à l'élection présidentielle sur base d'un programme commun, a déclaré le directeur de cabinet du chef de l'État, Nehemi Mwilanya Wilanja. Il s'exprimait lors de la signature de la charte du FCC à 3 semaines de l'ouverture du dépôt des candidatures. Le ministre de l'Intérieur, Henri Mova, est président du comité stratégique du FCC. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, représente la majorité présidentielle et le premier ministre, Bruno Tshibala, l'opposition, qui a accepté de rejoindre un gouvernement d'union nationale après un accord politique fin 2016. Une partie de la société civile et l'opposition, qui avaient souscrit à un autre accord, ont également signé la charte du FCC. Le président Kabila reste muet sur ses intentions. Ses adversaires le soupçonnent de vouloir rester au pouvoir.
L'ancien ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, a estimé dimanche que la France avait commis une très lourde faute politique au Rwanda en 1994. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Dans un entretien au quotidien français La Croix, M. Kouchner affirme avoir appelé depuis Kigali le président d'alors, François Mitterrand, pour lui décrire la situation. L'ex-humanitaire explique avoir dit à Mitterrand « Ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte, ici nous sommes les amis des bourreaux, il faut absolument arrêter tout ça ». Selon lui, Mitterrand lui avait répondu « Kouchner, je vous connais, vous exagérez ». Les décideurs n'ont pas voulu voir qu'ils étaient amis des génocidaires. C'est l'énorme ambiguïté de la France au Rwanda, a estimé M. Kouchner. Le président rwandais Paul Kagame, dirigeant le FPR, qui a pris le pouvoir à Kigali quelques jours avant la fin du génocide, a accusé les autorités françaises d'avoir soutenu le pouvoir Hutu et d'avoir été un acteur des tueries. Paris a toujours démenti toute implication dans les massacres.
En Égypte, les services de sécurité de l'aéroport du Caire ont refoulé dimanche l'ancien premier ministre et principal dirigeant de l'opposition soudanaise, Sadek al-Mahdi, qui vit en exil en Égypte. C'est ce qu'a annoncé à Khartoum son parti à l'Oumma, selon lequel M. Mahdi était allé assister à Berlin à une réunion d'une alliance de l'opposition soudanaise, bien que les autorités égyptiennes le lui aient déconseillé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a félicité dimanche et s'est dit prêt à travailler avec le nouveau chef d'État mexicain, Andrés Manuel López Obrador, peu après la large victoire remportée par ce candidat de la gauche à la présidentielle d'hier au Mexique. « Il y a beaucoup à faire pour le bien à la fois des États-Unis et du Mexique », a tweeté le président Trump, dont la politique commerciale et sur l'immigration a plongé les relations avec son voisin mexicain au plus bas de leur histoire.
Le droit à l'avortement était hier un grand sujet de discussion entre sénateurs américains, ceux-là même qui sont appelés à entériner le choix du président Trump pour remplacer à la Cour suprême le juge Anthony Kennedy qui part à la retraite à la fin du mois. L'avortement est légal aux États-Unis depuis Roe v. Wade, une décision historique de la Cour suprême prise en 1973 et qui a été réaffirmée depuis par la plus haute instance judiciaire du pays. D'aucuns craignent qu'elle ne soit annulée, cette décision, par une nouvelle majorité de conservateurs, le président Trump ayant promis pendant sa campagne de nommer des juges de droite qui estiment que la Cour suprême avait commis une erreur avec Roe v. Wade. Mais M. Trump a dit hier dans une interview qu'il n'interrogerait probablement pas à ce sujet un éventuel candidat.
En France, le braqueur récidiviste Redouane Faïd s'est évadé par hélicoptère avec la complicité d'un commando armé dimanche de la prison de Réau en Seine-et-Marne, 5 ans après sa première évasion spectaculaire d'une prison française. De nouveau, Nathalie Barge.
La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a estimé que le commando avait probablement repéré les lieux avec des drones. L'établissement pénitentiaire ayant repéré il y a quelques mois ce type d'engin qui survolait le bâtiment. L'évasion s'est faite avec 3 complices et l'hélicoptère de type Alouette a été retrouvé à Gonesse, au nord de Paris, à 60 km de la prison. Le pilote a été pris en otage par les complices. En état de choc, il a été transporté à l'hôpital. Une fois l'appareil posé dans la cour d'honneur, dépourvu de filets, 2 individus armés sont descendus munis de disqueuses et ont lâché des fumigènes. Habillés de noir, portant des cagoules et des brassards de police, équipés de fusils d'assaut de type Kalachnikov, ils ont découpé une porte menant au parloir où Faïd se trouvait avec l'un de ses frères. Les hommes auraient ensuite utilisé une Renault Mégane noire qui a été retrouvée incendiée sur le parking d'un centre commercial. Tous les moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif et ses complices, a indiqué le ministère de l'Intérieur.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et le moment est maintenant venu de passer au sport.
Oui, et notre journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pinault.
« Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Nouvelle sensation hier en Russie où le pays organisateur a éliminé au tir au but l'Espagne, pourtant favorite de la rencontre. Dans un stade Loujniki en folie, c'est Akinfeev, le gardien, qui a été le roi de ce huitième de finale en arrêtant deux pénaltys. Le film du match avec Amdinsi, envoyé spécial de VOA Afrique en Russie.
Les Espagnols ont bien démarré cette rencontre en ouvrant le score très tôt, mais la Russie a remis les pendules à l'heure en fin de première période sur un pénalty transformé suite à une faute de main du défenseur catalan Piqué. Les Espagnols et les Russes n'ont pas pu se départager. Il fallait passer à l'épreuve fatidique de tir au but pour départager les deux équipes et les Russes ont été plus adroits. Avec cette qualification, la cote de popularité des joueurs du pays commence à grimper chez les Russes qui ont fêté cette victoire durant toute la nuit où la vodka a coulé à fond. Amedinsi, Moscou, Vérafé.
L'Espagne rentre donc à la maison. Comme il l'avait annoncé avant le mondial, Andrés Iniesta a confirmé qu'il n'allait plus porter le maillot de la Roja après cette élimination. L'un des plus beaux palmarès du football espagnol s'en va donc et tire sa révérence sur la scène internationale. Dans l'autre huitième de finale de ce dimanche, la Croatie a eu très chaud et peut remercier les exploits de son gardien Danijel Subasic, qui s'est lui aussi illustré lors de la séance des tirs au but. Les Croates, si brillants au premier tour, ont peiné face au Danemark à Nizhny Novgorod. Les Danois ont ainsi ouvert le score sur une touche longue de Knudsen, prolongée par un tir de Jorgensen, dévié dans son but par Subasic. Ouverture du score après 57 secondes de jeu seulement. À peine le temps de souffler que Mandzukic égalisait pour la Croatie. 3 minutes plus tard, le score en reste là jusqu'à la fin des prolongations. Un but partout, Modric rate même un pénalty. Il faut alors départager les deux équipes. La séance de tir au but où les Danois butent à 3 reprises sur Subasic. En quart de finale, la Russie rencontre donc la Croatie. À suivre ce lundi, 2 huitièmes de finale, le Mexique affronte le Brésil. Tite, le sélectionneur brésilien, a annoncé que Marcelo, touché au dos contre la Serbie, serait remplaçant. C'est Felipe Luis qui sera titulaire et Fagner à droite. Ce match a retenu l'attention de Jules Valentin Gouy pour son coup de sifflet.
Bonjour. Avec le départ prématuré de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, victime de l'élimination des gros cylindrés que sont l'Argentine et le Portugal, le mondial russe confirme sa réputation de broyeuse de vedettes. L'hémorragie se poursuit puisque l'Espagne d'Andrés Iniesta est aussi passée par la trappe. Le match Brésil-Mexique prend donc une autre dimension car des 3 stars les plus convoitées dans le marché des transferts, seul le Brésilien Neymar reste en lice, faisant désormais de la Seleção l'équipe favorite en absence de l'Allemagne ayant sombré dès les premières joues. Le Brésil a abordé cette Coupe du Monde avec la ferme volonté de laver l'affront de 2014 et cette humiliation du grand rival allemand sur ses propres installations. Il a pris d'emblée des précautions défensives en resserrant son bloc avec 2 formidables briseurs d'attaque, le madrilène Casemiro et le mancunien Fernandinho, placés devant les centraux et qui seront très utiles pour empêcher les Mexicains d'exécuter leur exercice favori, le jeu en profondeur ponctué de remontées fulgurantes. Cette assurance tout risque acquise, les artistes de l'attaque du Brésil peuvent aider le rescapé de l'hécatombe des stars, Neymar, de jouer enfin sa carte de 3e larron, débarrassé de l'ombre de Lionel et de Cristiano. C'est tout le mal qu'on lui souhaite dans ce 5e match des 8e de finale. À bientôt.
La Belgique d'Eden Hazard affronte le Japon dans l'autre match du jour. Les Diables Rouges sont favoris. Quant aux Sénégalais, ils n'ont pas encore digéré leur élimination. Éliminés au fair play, ayant reçu plus de cartons jaunes que le Japon dans le groupe H au premier tour, le Sénégal veut faire changer cette règle, instaurée pour la première fois cette année dans une compétition international senior. La Fédération sénégalaise de football a envoyé 2 lettres de réclamation à la FIFA, notamment pour se plaindre de l'attitude antisportive du Japon qui a arrêté de jouer en fin de match face à la Pologne après avoir appris que la Colombie menait au score face au Sénégal. Mardi, la Suisse affrontera la Suède et l'Angleterre la Colombie. Le premier quart de finale n'aura pas lieu avant vendredi, France-Uruguay. Et Antoine Griezmann, l'attaquant français, s'attend à un match difficile.
Ils vont prendre leur temps, ils vont tomber, ils vont aller sur l'arbitre. C'est leur jeu et c'est ce qu'on fait nous à l'Atlético. Donc je pense qu'on va être, on va voir les vidéos de toute façon et voilà, va falloir s'habituer à ça parce que ils vont vouloir nous amener de leur côté. Donc voilà, faudra être calme et faire jouer voilà cette défense.
Ainsi s'achève ce journal de la Coupe du Monde. Prochain point sur le tournoi ce soir dans Le Monde aujourd'hui. On se retrouve également à 19h temps universel sur Sporama. À très vite.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, demander un terme aux exactions des militaires contre les civils dans le centre du pays. Telle est la raison d'une marche silencieuse organisée à Bamako, alors que le week-end a été marqué par deux attaques terroristes. La première contre la force conjointe du G5 Sahel et la deuxième contre la force française Barkhane. Selon l'ONU, au moins 43 civils ont été tués et 24 blessés depuis le début de l'année dans des attaques ciblées et conflits intercommunautaires. Et l'insécurité en cette veille d'élection présidentielle inquiète les autorités, mais le président Ibrahim Boubacar Keïta assure que la présidentielle se tiendra à la date prévue. Nous retrouvons notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Une centaine de personnes a marché de façon silencieuse de la place du Cinquantenaire au boulevard de l'Indépendance. Les marcheurs dénoncent les exactions au centre du pays.
Dans le centre, c'est la loi de plus fort que rien aujourd'hui, sinon il n'y a pas de justice aujourd'hui.
La dernière fois qu'on s'en est pris au Peul, on a mis les Peul de côté et on les a assassinés. Ça s'appelle comment? C'est pas dans ce Mali que moi je suis né.
Nous avons même peur de retourner. Parce que quand tu es là-bas, les djihadistes te prennent pour cible, ils vont dire que toi tu es à Bamako, tu es avec les autorités. Et les militaires s'élèvent pour aller nous tuer, soi-disant. Tous les peuples sont des djihadistes.
Donc, dire que c'est des Dogons et des peuples qui sont opposés, non. Nous ne voulons pas que l'État oppose ces populations.
Le parti phare de l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, candidat du NPP, a fait une conférence de presse sur la situation au centre du Mali.
Des forces communes sont découvertes, ça et là, plus grave. Le gouvernement vient de reconnaître que des éléments des forces armées nationales sont impliqués dans certains cas d'exécution sommaire des citoyens. Cette situation aussi inacceptable qu'inquiétante interpelle la responsabilité première du gouvernement où notre peuple s'interroge devant tant d'atteintes et devant tant d'effritements, devant tant de violences. C'est le devoir du gouvernement d'informer et de rassurer.
Malgré cette situation, le président Ibeka rassure les Maliens. Avant le sommet de l'UEA, il s'est rendu à Sévaré pour apporter son soutien aux soldats du G5 Sahel.
Nous ne baisserons pas les bras, nous ne tremblons pas. Nos mains seront encore plus sûres sur les armes de défense de la paix, de défense de nos valeurs, de défense de notre civilisation, de défense et de survie du Sahel. Les armes ne trembleront pas. Les fils du Sahel que j'ai vus ici, malgré la perte de deux de leurs et des blessures, sont plus que jamais déterminés, fiers, debout pour servir le Sahel, ta cause, la paix. Nous sommes également dans une période préélectorale au Mali. Là également des frémissements. Quel que soit le vouloir de certains, ces élections présidentielles auront lieu dans les formes de l'art.
Les présidents maliens ignorent certainement la réalité du terrain. C'est ce que pense Dr Alaï Bokoum du parti Sadi. Il se trouve actuellement au centre du pays.
On ne peut même pas parler d'État dans ces zones. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de directeur d'école, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de policier, il n'y a rien qui puisse représenter le détail. Les gens aujourd'hui s'autogèrent eux-mêmes. Même les enseignants qui sont là, je vous jure, voici des gens qu'on peut considérer comme des soldats. À partir des premières lignes entre Bamako et Fana, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas de Mali. Moi, ce que j'ai vu au nord aujourd'hui, ce n'est pas le Mali que j'ai connu.
Modibo Sidibé, de son côté, préconise le retour de l'administration dans la localité où elle est absente afin de faciliter la bonne organisation de l'élection présidentielle.
Le gouvernement doit marquer très fermement son attachement aux droits et à la dignité de tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Remodeler rapidement la gouvernance de la défense et de la sécurité. Consacrer au financement des opérations de sécurité, non seulement des ressources suffisantes, mais aussi dans la durée. Les forces de sécurité, de gendarmerie, garde nationale et de police doivent se déployer pour à la fois permettre les opérations de relèvement, donc d'administratifs sociaux, le retour et l'effectivité de l'administration en étroite coopération avec les autorités traditionnelles et les populations.
Au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre Salif Traoré dit que la sécurité sera renforcée au Mali. Il y aura une montée en puissance des hommes partout afin de faire face à la sécurisation des élections. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Comment éviter l'exode de centaines de milliers d'Africains, essentiellement vers l'Europe? Cette question ne figure pas au programme officiel du sommet de l'Union africaine en Mauritanie, mais elle est discutée à Nouakchott, comme ça a été le cas ce week-end à Goma, capitale du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, avec des jeunes et chercheurs universitaires de la sous-région des Grands Lacs. Reportage de notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
Venus du Mali, du Burundi, de la RDC et de Nigeria, ces intellectuels ont réfléchi sur les causes et les solutions pour maintenir la jeunesse africaine sur son sol. Pour certains de ces jeunes participants à ces colloques, une sorte de civisme africain est nécessaire. Ishara et Tristan, venus respectivement de la RDC et du Rwanda, donnent leurs réflexions.
Chaque chef d'État dans son pays, en Afrique, devrait travailler sur une éducation de civisme africain. Mais aussi, cette éducation doit avoir son impact sur la communication de médias. Parce qu'aujourd'hui, les médias africains nous montrent toujours que l'Europe, c'est le paradis et que l'Afrique, c'est l'enfer. Les artistes qui ont aussi un rôle à jouer.
Si les jeunes prennent tous ces risques-là pour aller en Europe, même les risques de mourir, c'est parce qu'ils n'ont pas vu un environnement positif à leur développement. Et puis, je me dis que ça se joue sur l'image qu'on montre de nos pays, de l'image qu'on montre de nos continents.
Qu'est-ce qui manquerait aux dirigeants africains pour maintenir sa jeunesse? Faïda Mwangilwa, une ex-ministre de la RDC, de la condition femme, famille et enfant, pendant plus de 10 ans, elle a été aux affaires. Elle donne ici son point de vue.
J'ai l'impression, et ça par rapport à mon expérience, j'étais dans les institutions, je réalise qu'il y a beaucoup plus d'égoïsme. Ce qui nous manque, c'est plus la responsabilité collective.
L'Afrique perd et perdra encore plus si l'on n'inverse pas vite la tendance, explique Ambroise Dokouo, chercheur en anthropologie venu du Mali.
Le premier niveau, c'est la question de la gouvernance. Vous prenez le cas du Mali, vous aviez 300 000 jeunes qui sortent chaque année des universités, très peu ont accès à l'emploi. Si rien n'est fait pour inverser la tendance, dans les années à venir, quand on voit la nature du phénomène, elle ne profite pas à l'Afrique. C'est vrai qu'il y a 300 à 400 milliards de dollars qui sont exportés chaque année par les migrants, notamment dans un pays comme le Mali. Mais quand on voit les secteurs d'investissement, on voit tout de suite que ça ne profite pas toujours à l'économie nationale.
Même si cette migration ne peut plus être stoppée, il est plutôt important de la régulariser, estime Néné Morichou, directeur de l'Institut de recherche scientifique Paul Institute de Goma.
Avec tous les jeunes qui meurent dans la mer, il faut en parler. Et je pense aux organisations comme Paul Institute d'éveiller les consciences des autorités pour créer des opportunités économiques et que ces jeunes puissent rester au pays.
La lutte est rude face aux opportunités utopiques du Nord, mais il est important aujourd'hui que cette question soit disputée dans les grands salons africains. Charlie Kasereka pour VOA Afrique à Goma.
Situation inédite au Bénin, la nouvelle cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Diogbenou a retiré à certains fonctionnaires le droit de grève. La précédente, il y a quelques mois, avait plutôt suggéré un encadrement du droit de grève des fonctionnaires au Bénin. Le point avec Ginette Fleur Adande, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
Le verdict est prononcé suite à une requête en date du 20 mai 2018 dans laquelle les requérants ont saisi la haute juridiction en vue d'une interprétation de certaines décisions de la Cour datant de janvier 2018 rendues au motif essentiel selon lequel seul le constituant peut interdire l'action syndicale et le droit de grève, le législateur n'étant habilité qu'à encadrer leur exercice. Après analyse, la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Diogbenou prononce la phrase que les travailleurs redoutaient. Le retrait du droit de grève aux magistrats, aux agents de santé et aux forces de sécurité est bel et bien conforme à la Constitution. Pourtant, l'équipe précédente de la Cour avait réglé la question. La réaction de l'Union nationale des magistrats du Bénin ne s'est pas fait attendre. Elle dénonce une violation et une atteinte à leur liberté.
En clair, le magistrat, acteur central du pouvoir judiciaire, sera soumis dans son office au diktat de l'exécutif et toute résistance de sa part l'expose à des sanctions disciplinaires automatiques. Ça sur ce plan d'une justice aux ordres, incapable de s'insurger et contrainte de se déployer contre les indésirables de la République qui est savamment mis en œuvre avec le concours et la bénédiction des nouveaux sages de la Cour constitutionnelle.
Pour Maître Tato Atita, la question du retrait du droit de grève se pose avec acuité depuis 1958. Les travailleurs des secteurs cités en sont conscients, même s'ils l'ont toujours combattu.
Est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions. Les magistrats, comme certains fonctionnaires, se voient donc privés de cette liberté publique à valeur constitutionnelle qu'est le droit de grève, ce qui ne les empêche pas, de temps à autre, de mener certaines actions concertées pour faire entendre leurs revendications, avec notamment des reports d'audience.
Beaucoup s'étonnent que le président de la Cour constitutionnelle, au lieu de donner du poids à tous les combats auxquels il avait milité, vêtu du costume de membre de la société civile, en vient aujourd'hui à les combattre.
Si hier, M. Diogbenou a marché aux côtés des autres acteurs de la justice pour dire non, président Yahi, à ce qu'il retire le droit de grève, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il serait en tête d'une initiative qui va vouloir retirer le droit de grève au personnel de la justice.
Les décisions de la Cour sont sans recours et s'imposent à tous. Pour le moment, les agents concernés se réservent le droit de se prononcer, même si certains pensent qu'il ne faudrait rien attendre de juridiquement correct de cette Cour qui a à sa tête un bras droit du président de la République. De Cotonou, Ginette Fleur Adanlé pour VOA Afrique.
En Gambie, les victimes de l'ancien régime de Yahya Jammeh ont annoncé le lancement d'une campagne visant à traduire en justice l'ex-président et ses complices. Elle les accuse, entre autres, de meurtre, disparition et torture. Yahya Jammeh vit en exil depuis janvier 2017 en Guinée équatoriale, après qu'il a perdu les élections et a été forcé de renoncer au pouvoir. Yacouba Ouedraogo a joint Reed Brody, conseiller à l'ONG Human Rights Watch.
Depuis la chute de Yahya Jammeh, évidemment, les victimes des crimes de son gouvernement, les victimes de tortures, d'assassinats, le programme Fantoche contre le sida, etc., les victimes s'organisent pour l'amener devant la justice. Mais nous sommes confrontés à un constat, c'est que la Gambie actuelle n'est pas en mesure d'offrir à Yahya Jammeh un procès serein. Il y a toujours des problèmes institutionnels, sécuritaires et géopolitiques. Mais pendant le règne de Yahya Jammeh, il y a eu un massacre d'une cinquantaine de migrants, des migrants ouest-africains, du Ghana, Togo, du Nigeria, du Sénégal, en 2005, qui a été opéré par l'escadron de la mort de Yahya Jammeh, les Junglers.
On sait qu'il y a des victimes, bien sûr, ghanéennes et togolaises et autres, mais à l'intérieur également de la Gambie, il y a des victimes, des familles des victimes qui se manifestent. Qui sont ces familles des victimes gambiennes là?
Évidemment, je suis là à Nouakchott avec Baba Haïdara, qui est le fils de Deda Haïdara, un journaliste assassiné aussi par l'escadron de la mort de Yahya Jammeh. Il y a la famille des victimes des manifestations réprimées des étudiants. Il y a la famille de Solo Sandeng, assassiné en 2016, et qui a servi à déclencher un peu la vague qui a emporté avec elle Yahya Jammeh. Donc il y a maintenant, plus de 1000 victimes qui se sont réunies au sein de l'association des victimes et qui réclament justice, qui réclament que le gouvernement de la Gambie enquête sur les personnes disparues.
Vous le disiez tantôt, les conditions ne sont pas réunies pour que Yahya Jammeh soit jugé en Gambie, alors que les victimes demandent son extradition vers la Gambie. Ce n'est pas réaliste.
Non, les victimes demandent son extradition vers le Ghana. Les victimes gambiennes ont une sophistication suffisante pour demander qu'il soit d'abord extradé au Ghana pour être jugé pour le massacre de 50 migrants ouest-africains en 2005.
Qu'en est-il des victimes gambiennes à l'intérieur du pays? Demande-t-elle aussi qu'il soit extradé vers le Ghana ou vers la Gambie?
Les victimes gambiennes ont organisé une conférence de presse en Gambie pour demander qu'il soit extradé au Ghana. Évidemment, on voudrait à la fin que Yahya Jammeh revienne éventuellement en Gambie pour être jugé pour la totalité des crimes qui sont imputés, mais en attendant, et les victimes ghanéennes et les victimes gambiennes s'unissent pour demander que le Ghana enquête sur ce massacre qui serait un début de justice.
Reed Brody, conseiller à l'ONG Human Rights Watch, joint à Nouakchott.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Patrick Déa. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.